RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Et à la première montagne, tout explose. Chris Froome assomme le Tour de France. L'anglais de la Sky remporte la première étape de montagne en laissant les autres favoris très loin derrière. Un 14 juillet fatal aux Français aussi. Cyril Guimard est là à 18h15 pour en parler avec nous. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon à 20h avec vous au 32-16. Oh la belle bleue, 14 juillet, unité nationale derrière la candidature de Paris pour l'organisation des JO de 2024. Politique et sportif, main dans la main pour regarder le feu d'artifice au Trocadéro. Pendant qu'à Rio, le Corcovado va s'illuminer de bleu-blanc-rouge ce soir. 14 juillet, une raison de plus de porter avec fierté le maillot bleu pour les joueurs du 15 de France. Philippe Saint-André, le sélectionneur, sera en direct à 18h30 dans l'Intégral Tour. Il va nous dire pourquoi les Bleus vont gagner la Coupe du Monde. L'Intégral Tour vous offre un derby Lyon-Saint-Etienne. Un invité de chaque camp à 20h30, Maxime Gonalon, le capitaine de l'OL, et Jérémy Clément, le milieu de terrain stéphanois. Tout de suite, c'est l'Actu Sport avec Martial Fernandez. Salut Martial.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Et le coup de force de Christopher Froome sur le Tour de France.
Et dès le premier grand col de ce tour, le col de Soudé, le Britannique qui a fait voler en éclats le peloton des favoris. Froome qui gagne en solitaire l'étape à la Pierre Saint-Martin où on va retrouver Christophe Cessieux. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Martial.
Christophe, c'est Froome devant et les autres loin derrière.
Ah oui, très loin derrière. Même Christopher Froome a assommé le Tour de France aujourd'hui. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question avant le départ de cette étape, la journée de repos cause souvent des dégâts, mais alors les dégâts ont été impressionnants par Christopher Froome qui a donc tout assommé dès le début de l'ascension de la Pierre Saint-Martin. Il arrive avec près d'une minute d'avance sur son premier poursuivant qui est aussi son coéquipier Richie Porte. Quant aux autres fantastiques ou pseudo-fantastiques du début du tour, eh bien ils sont loin, très loin. Quintana est le seul à s'en sortir à peu près puisqu'il prend la troisième place avec 1:04 de retard plus exactement. Alberto Contador termine 11e de l'étape à 2:51. Et puis que dire de Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant de ce Tour de France qui a craqué dès les premiers hectomètres de la montée. Il est 21e de l'étape à 4:25. Désormais, au classement général, Chris Froome est plus que jamais en jaune. C'est même plus du jaune. On ne sait plus quelle couleur est son maillot. Il a 2:52 d'avance ce soir sur Van Garderen et 3:09 sur Quintana. Valverde est 4e à 4:01 et Contador 6e à 4:04. Les Français aussi ont explosé. C'est vraiment pas un jour de fête nationale pour eux. Les deux seuls à s'en sortir sont Tony Galopin et Pierre Roland qui ont terminé respectivement 8e pour Roland et 9e pour Galopin. Les autres ont tous explosé. Bardet, Perrault, Pinot, tous les héros de l'an dernier sont très loin au général ce soir. Le tour est peut-être déjà joué ce soir dès la première étape de montagne.
Alors justement, Tony Galopin, tu le disais Christophe, 9e à 2:22 de Froome aujourd'hui. Il a vu l'attaque du maillot jaune de près.
J'avoue que j'étais toujours en 10e position environ avec côté de Pierre Roland et voilà, je savais que quand Froome allait accélérer ou Quintana, je serais pas en mesure de suivre, mais de mon avis personnel, je pense que Froome est au-dessus du lot, mais Quintana va être très fort la dernière semaine, donc pour moi je regarde ça avec des grands yeux et c'est sûr que je suis pas dans la même catégorie, donc c'est une des rares fois que déjà sur le Tour de France que je peux suivre les meilleurs comme ça. D'habitude je les vois au résumé le soir à la télévision.
Tony Galopin avec Pierre-Yves Leroux, le premier français du jour, c'est donc Pierre Roland de l'équipe Europcar, 8e à 2:04 de Froome aujourd'hui.
Je suis content de là où je me situais avec les coureurs avec qui j'étais. Je pense peut-être pu faire un peu mieux. Là, je suis resté dans la route Contador et j'ai vu qu'il était pas bien, qu'il s'arrosait beaucoup, qu'il avait fait signe à son équipier que ça n'allait pas trop. Donc voilà, les lendemains de journée de repos, on a toujours des surprises et monter sèche comme ça, c'est la transition est très difficile et moi, je suis content de comment moi ça a réagi. Quoi.
Ouais, la transition difficile, sauf pour Froome. Apparemment, demain, attention, 11e étape avec toujours les Pyrénées. Ça ne sera pas un grand col pour finir, mais quand même, Pau, Cotterêts, 188 km et les cols d'Aspin et le Tourmalet au programme.
Alors autant cette journée a été difficile pour les Français sur le Tour de France, autant au championnat du monde d'escrime, ça se passe bien pour la première journée, on pouvait avoir des médailles parce qu'il y en a une d'assurée déjà.
On va en avoir une du côté de Moscou, on va retrouver Rodolphe Massé. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir.
Alors Rodolphe, une sabreuse en finale mondiale, Cécilia Berder, c'est la belle surprise de la journée.
Oui, c'est véritablement une surprise parce qu'on n'imaginait pas forcément dans le clan français obtenir une première médaille dès cette première journée consacrée aux épreuves individuelles du sabre féminin et du sabre masculin. Cécilia Berder, 25 ans, qui réalise jusqu'à présent la journée parfaite. Elle a dominé d'abord en huitième de finale, en deuxième tour, l'Italienne Vecchi, pourtant mieux classée qu'elle au classement mondial. Et puis ensuite, elle a surtout battu la référence de cette discipline, l'Ukrainienne Karlan, double championne du monde en titre. La Française a volé sur la piste. En quart de finale, elle a toujours été sérieuse face à la Sud-Coréenne Wang, une large victoire. Et en demi-finale, eh bien, Cécilia Berder a de nouveau marché sur son adversaire en jouant avec les distances et en s'imposant 15 touches à 10 face à la chinoise Chen Chen. Cécilia Berder va donc avoir la première médaille de l'équipe de France, la première médaille mondiale de sa carrière également, et on connaîtra dans quelques minutes l'identité de son adversaire en finale à 19h heure française. Ce sera soit la russe Velikaya, autre référence de la discipline, soit la toute jeune hongroise Marton.
Et ce sera sur RMC, on suivra ça avec toi tout à l'heure, Rodolphe.
Ça y est, le meilleur joueur du monde a signé au PSG, Nicolas Karabatic.
Ouais, chronique
au PSG
d'un
handball.
Événement annoncé, Virginie, comme prévu. Ça s'est fait la semaine qui a suivi l'annonce de sa condamnation à une amende de 10 000 euros dans l'affaire des paris suspects. Visiblement, ça ne lui a pas porté préjudice pour cette arrivée. À 31 ans, Karabatic s'engage pour 4 saisons. Il vient renforcer un PSG handball de plus en plus ambitieux, Maureen Lehou.
Depuis 2012 et l'arrivée des Qataris, Paris cherchait à attirer Nicolas Karabatic dans son effectif de star, à chaque fois sans réussite. Mais après une saison où il a tout gagné avec Barcelone, le joueur estime qu'il s'agit du bon moment. Le meilleur joueur du monde arrive donc dans le meilleur club de France, champion de France en titre, vainqueur de la Coupe de France 2015, mais toujours à la recherche d'un premier titre sur la scène européenne. Avec l'arrivée de Karabatic, la Ligue des Champions devient plus que jamais l'objectif numéro un du club, puisque le Français a déjà remporté 3 titres de champion d'Europe avec 3 clubs différents. À 31 ans, celui qui portera le numéro 44 s'offre donc un nouveau challenge. À Paris, Nicolas Karabatic retrouvera aussi son frère Luca, qui a signé en juin un contrat de 4 ans, mais aussi certains de ses partenaires en bleu comme le gardien Thierry Omeyer ou l'ailier Samuel Onrubia, sans oublier son mentor et ancien entraîneur dans le club allemand de Kiel, Zvonimir Zerdarušić. Après Montpellier et Aix-en-Provence, le Français va découvrir avec Paris son 3e club en France.
Et Karabatic, pour l'instant, il est en vacances au Mexique, mais il sera à l'entraînement là la semaine prochaine.
Le PSG côté football cette fois.
Il n'y a pas que l'argent pour recruter au Paris Saint-Germain. C'est une enquête RMC Sport. Le club parisien a changé sa façon de faire. Objectif, ne pas passer à côté des futures stars. Et c'est en partie comme ça que le gardien de but allemand Kevin Trapp vient d'être recruté. Mohamed Bouafsi, Paris s'est doté d'un outil exceptionnel.
Un outil jamais vu en France, regroupant des informations physiques, techniques, tactiques et même psychologiques. Paris a créé une cellule statistique et vidéo s'inspirant des plus grands clubs européens. Les dirigeants du PSG révolutionnent leur cellule de recrutement et cela passe aussi par l'augmentation de recruteurs. Le PSG est passé de 8 à 24 recruteurs en 2 ans. Plus question de laisser filer des joueurs comme Paul Pogba qui a grandi en région parisienne. Le club veut superviser tous les clubs franciliens et le recrutement à Paris démarrera dès l'âge de 6 ans. Pour cela, le PSG a engagé l'ancien directeur technique du FC Barcelone. Pas question de copier le grand Barça, mais l'objectif est de s'en inspirer pour inventer un nouveau style de jeu, le jeu Paris Saint-Germain.
Et au PSG, il y a aussi des envies de départ.
RMC, le Mercato Show.
Bonsoir Damien Gozioso.
Bonsoir.
Alors Thiago Motta, lui, veut quitter Paris.
Oui, le joueur s'est confié à la presse italienne et explique qu'il est en fin de cycle à Paris. Rester à Paris n'a pas de sens, je l'ai déjà dit à Laurent Blanc, explique le milieu de terrain italien. Ça a le mérite d'être clair, s'il quitte la capitale, il devrait rentrer en Italie, probablement du côté de l'Inter Milan. Au PSG, toujours la piste Stambouli est envisagée pour compenser le départ de Johan Cabaye, voire celui de Thiago Motta. Donc, le PSG propose 8 500 000 euros à Tottenham pour récupérer Stambouli, qui semblait prêt à s'engager avec Watford. Autre info du jour, en Ligue 1, Toulouse tient sa première recrue et c'est un gardien de but. Il s'agit d'un Uruguayen, il s'appelle Mauro Goicoechea. Il évolue en D1 portugaise la saison dernière à Arouca. Et puis à Monaco, le départ du défenseur central Ayman Abdennour est quasiment acté. Il devrait s'envoler du côté de l'AC Milan. À l'étranger maintenant, Raheem Sterling s'est fait quitte Liverpool pour Manchester City. On parle d'une transaction d'environ 70 millions d'euros. Puis Arsenal, qui n'a pas fini son recrutement, Arsène Wenger a ciblé Fawzi Ghoulam. Arsenal aurait même proposé 10 millions d'euros à Naples pour s'offrir le latéral gauche. Mais les Gunners pourraient perdre un joueur. Il s'agit de l'espoir français Yaya Sanogo. Il ne manquerait plus que la formalité de la visite médicale pour que l'attaquant rejoigne l'Ajax Amsterdam. Enfin, un mot de Victor Valdés, aujourd'hui barré à Manchester United. L'emblématique gardien de Barcelone pendant plus de 12 saisons a été proposé au Real Madrid pour remplacer un autre monument, Iker Casillas.
Avis aux amateurs, le poste de sélectionneur de la Russie est libre. Fabio Capello viré après les mauvais résultats de l'équipe nationale, mais Capello pas à plaindre. Virginie, d'après les médias russes, l'entraîneur italien devrait recevoir une indemnité de 15 millions d'euros.
Bon négociateur. François Hollande invite les sportifs en ce 14 juillet.
C'est réception à l'Élysée en cette fin d'après-midi, histoire de marquer le coup le jour de la fête nationale. Un appui à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. On a Vincent Delzelsko devant l'Élysée pour RMC Sport. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Alors Vincent, la présidence de la République a invité du beau monde. Est-ce que les champions sont arrivés ?
Exactement, ça y est, ils sont arrivés, une centaine d'athlètes et autres personnalités du sport qui sont donc arrivés ici au palais de l'Élysée. On a vu Thierry Omeyer arriver parmi les premiers, imité par Bernard Lapassé, un des piliers, vous le savez, du mouvement en tant que président de l'association Ambition Olympique. Était attendu entre autres également Marion Bartoli, Ladji Doucouré, Marie-Josée Pérec ou encore Thierry Dussautoir qui est arrivé un petit peu sur le tard, Tony Estanguet évidemment, également en tant que membre français du CIO. Pas de Tony Parker en revanche, pas plus que de Teddy Riner devant François Hollande, le président de la République, qui va leur réaffirmer son soutien, son engagement, tout en leur rappelant que c'est à eux, aux sportifs, de porter ce projet olympique. Une réception qui se veut donc surtout symbolique en ce 14 juillet et qui devrait se terminer aux alentours de 19h, après quoi les athlètes se retrouveront à un hôtel proche du Trocadéro, puis au Palais Chaillot ce soir pour admirer, toujours en compagnie du président de la République a priori, ainsi qu'une partie du gouvernement, le traditionnel feu d'artifice.
Merci Vincent, en direct de l'Élysée.
Les joueurs de l'équipe de France de rugby pendant ce temps-là préparent leurs valises.
Mais ça n'est pas pour partir en vacances, c'est juste une étape de leur préparation pour la Coupe du Monde qui commence en septembre. Ils quittent Marcoussis et le centre d'entraînement demain, direction la montagne, Tignes exactement, pour 10 jours. Et ça n'est pas que pour s'aérer l'esprit, Maxime Rollin.
Et oui, les Bleus pensaient avoir passé le plus dur, c'est raté. Les 10 premiers jours à Marcoussis n'étaient qu'un échauffement, une mise en route. Place à la seconde phase de la préparation physique. Et ce sera en altitude à 2100 mètres. Le programme reste secret. Il pourrait d'ailleurs être modifié en fonction des conditions climatiques. Mais les organismes seront une fois de plus soumis à rude épreuve, comme l'explique le préparateur physique des Bleus, Julien Deloire.
On rentre dans une deuxième phase pour nous qui succède celle de du travail des premières charges. On rentre vraiment dans la phase de régulation, travailler fort énergétiquement aussi. C'est vraiment l'axe de travail principal de ces trois premières semaines. La répétition de travail à haute intensité et qui plus est en altitude.
Et puis Maxime, on a aussi un sélectionneur, Philippe Saint-André, qui reste ferme sur la date d'annonce de sa liste définitive des 31 joueurs. Ce sera le 23 août, après le deuxième match de préparation face à l'Angleterre, et non pas une semaine avant, comme les clubs du top 14 l'auraient souhaité.
Philippe Saint-André ne veut pas s'embrumer l'esprit avec les éternelles querelles entre la Fédération et la Ligue sur la mise à disposition des internationaux. J'annoncerai ma liste des 31 le 23 août, quoi qu'il arrive. C'est clair, net et précis, a martelé Philippe Saint-André en conférence de presse. Ce qui intéresse le sélectionneur, c'est la préparation de ses joueurs et l'état d'esprit de son groupe. Pour le reste, demandez à Serge Blanco, nous a-t-il suggéré.
Merci Maxime. Puis en ce 14 juillet, un rugbyman nouveau chevalier de la Légion d'honneur. C'est le capitaine du 15 de France, Thierry Dussautoir, qui a été décoré aujourd'hui.
Et Maxime va rester avec moi puisque tout à l'heure à 18h30, c'est Philippe Saint-André qui sera notre invité dans l'intégral tour. La Coupe Davis et les tennismen français sont au boulot à Londres.
Ces messieurs peaufinent sur le gazon. Tsonga, Gasquet, Simon, Mahut et le remplaçant Pierre-Hugues Herbert sur le gazon londonien avant le quart de finale au Queen's face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Ce sera à partir de vendredi. Eric Salio est à Londres pour RMC Sport. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Alors Eric, dans deux jours, on va savoir qui jouera en simple, qui sera aligné en double. Eric, est-ce que tu as pu assister aux entraînements et surtout, est-ce que tu as des indices ?
Écoute, les Français cultivent le secret et c'est bien normal. Ils ne veulent livrer à Andy Murray et James Ward aucun indice sur l'identité du joueur que les Britanniques auront en face d'eux vendredi. Et c'est vrai qu'Arnaud Clément a l'embarras du choix. Ce matin, Tsonga et Simon ont eu le bonheur de fouler le central, refait à neuf après la finale du Queen's fin juin. Gasquet lui a retouché pour la première fois la raquette après avoir coupé avec la petite balle jaune. Il avait besoin après sa demi à Wimbledon. En ce qui concerne le double, sur ce qu'on a vu, le capitaine tricolore semble miser sur une paire Tsonga-Mahut. Hier après-midi, les deux ont beaucoup bossé. Clément a même rectifié le jeu sur une position au filet. On voit qu'aucun détail n'est négligé. Et demain, cette paire devrait encore peaufiner les réglages avec le renfort d'un sparring partner, Nicolas De Wilder, arrivé hier à Londres. Pourquoi ? Eh bien parce que le double britannique peut aligner Jamie Murray, qui est gaucher. Et comme De Wilder est gaucher, eh ben ça tombe bien. Il avait déjà aidé les Bleus de Forger en 2011 en Autriche.
Suspense garanti. Merci Eric.
Le Tour de France et cette victoire de Chris Froome. Qu'en pensez-vous ? Chris Froome qui assomme le Tour de France. On en parle dans un instant avec Cyril Guimard qui est en direct des Pyrénées. Vous appelez le 3216 et puis également Twitter, le hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h19, c'est l'Intégral Tour jusqu'à 21h sur RMC. On va prendre un peu de hauteur et on va rejoindre Cyril Guimard à la Pierre Saint-Martin. Bonsoir Cyril.
Bonsoir. Bonsoir.
Oh. Je sais bien Cyril, c'est pas facile, ça y est, le Tour de France est terminé, c'est ça que tu te dis depuis tout à l'heure. Hein.
Bah, d'habitude, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie que je réponds à vos questions. Mais là, ce soir, j'ai envie de dire la plupart des coureurs, beaucoup de coureurs, et à divers degrés d'ailleurs, mais tous les suiveurs du Tour de France ce soir sont... on est un petit peu sous le choc, sous le coup. Que va-t-il nous rester pour cette fin de Tour de France, d'autant que les Français n'ont pas été à la hauteur du tout. On s'en doutait, hein. C'était pas une surprise. J'avais déjà émis depuis quelque temps certaines réserves sur les capacités des coureurs français. Et bien aujourd'hui, le verdict est tombé et il est sans appel, que ce soit pour Bardet, que ce soit pour Pinot, que ce soit pour Perrault. Malheureusement pour Barguil, il a perdu un peu de temps, mais il s'en sort bien parce qu'il se retrouve 9e au classement général. Mais il a été victime d'une grosse chute et malgré ça, bon, il a sauvé, on va dire, les meubles. Et puis il nous reste Galopin, dont on sait qu'il ne restera pas là très longtemps dans les étapes de col avec les cols à répétition. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé dans ce premier col du Tour de France, dont on sait qu'il est toujours très dangereux, à plus forte raison le lendemain d'une étape de repos, on savait qu'il allait avoir des éclats. À ce niveau-là, vraisemblablement pas. Et puis, il y a le one-man show où j'allais dire de Chris Froome, non, on va dire de la Sky, en règle générale.
Oui, parce qu'il faut pas oublier que Richie Porte est deuxième, hein, il est devant Quintana aussi, hein, Richie Porte, coéquipier de Froome.
Et oui, et c'est lui qui avait roulé le pied du col avec Geraint Thomas, d'ailleurs. C'est Geraint Thomas, c'est lui qui font la montée, et puis on retrouve Porte deuxième après avoir fait tout péter. Ils étaient plus que trois lorsqu'il s'est écarté. Quintana, Froome et lui. Et il revient faire deux après. Et Geraint Thomas, qui avait roulé juste avant, lui, il vient faire sixième de l'étape. Donc il y a une équipe qui est au-dessus du lot et un coureur qui a assommé, j'ai presque envie de dire, ça va peut-être faire peur à tout le monde, mais j'ai bien peur qu'il ait tué le tour. Alors, sur 15 kilomètres.
Alors, Cyril, est-ce qu'il a tué le tour à la régulière ou pas? Parce qu'on va pas faire semblant, c'est la question que tout le monde se pose ce soir.
C'est la question que tout le monde... Pas ce soir, non. Se pose depuis quelque temps.
Disons que cette question s'était déjà posée en 2013 et elle revient.
Non, mais elle s'est posée beaucoup pendant la journée de repos parce que il est clair que l'équipe Sky n'est pas tout à fait... à égalité avec les autres équipes sur ce Tour de France, ne serait-ce que par leur organisation, qui a pourtant été interdite hein, pour le Tour, c'est-à-dire leur grand pullman. Là, ils ont trois pullman qui sont des chambres à coucher à 500 000 euros pièce, c'est-à-dire 1,5 million. Un tel investissement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
Donc c'est des sortes de gros camions qui cachent des chambres luxueuses qu'ils installent sur les parkings des hôtels. C'est ça, oui, qui empêche en plus les autres de se garer, je crois.
Voilà, oui, non, en plus, ça fait... oui, parce qu'ils arrivent, ils prennent tout le parking... Et les autres, taisez-vous, il y a une forme d'impérialisme de l'équipe Sky. Et c'est vrai que ça gronde partout, mais pas aujourd'hui. Depuis le début du tour. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Mais ce qui est gênant, et c'est toujours comme ça que les suspicions arrivent. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cas? Est-ce que l'organisation du Tour de France est allée voir ce qu'il y avait dedans? Puisqu'ils sont interdits. Aujourd'hui, on va pas nous faire croire que un investissement à 1 million d'euros par motorhome, 1,5 million, c'est uniquement pour faire coucher les mécanos et les masseurs. faut pas nous prendre pour des imbéciles non
c'est
plus.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ces
ce qu'on pense qu'il y a à l'intérieur, mais ils ont qu'à les ouvrir et puis on va les voir. Mais y compris les commissaires de course pourraient y aller. Ce sont des chambres hypoxie. Alors c'est quoi? Ça veut dire que après l'arrivée, on va dans son motorhome en expliquant que c'est parce que les toilettes de l'hôtel peuvent être porteurs de germes, parce que la cuisine n'est pas bonne et parce que les lits, ça doit être plein d'acariens, enfin j'en sais rien. Je veux bien, mais c'est vrai pour tout le monde. Et tous les autres sont pas morts.
Donc
quand
on
même
prend pour excuse l'hygiénisme à outrance.
On va dire comme alibi. Mais la réalité, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Attends, je sais pas si vous imaginez. Un motorhome à 500 000 euros. C'est quand même pas les draps qui coûtent ce prix-là quand même.
Donc
si on peut pas qu'il y ait de suspicion. Et si on veut que l'ensemble des coureurs soit à égalité sur le Tour de France, il faut que tout le monde ait les mêmes règles. Or, l'équipe Sky n'a pas du tout les mêmes règles que les autres équipes. Et je suis pas contre les motorhomes, mais à ce moment-là, tout le monde a des motorhomes et les mêmes.
Mais Cyril, à ce moment-là, là, cette suspicion qu'il y a sur les Sky, en fait, c'est même pas au Sky de la régler, c'est au commissaire de course. C'est à eux de faire leur travail et de faire en sorte que l'égalité, l'équité soit respectée.
Oui, ben c'est comme dans toute règle, pour les faire respecter, il faut aussi un certain courage. Quelle est la puissance de l'équipe Sky par rapport à l'organisation du Tour de France, qui s'est battue d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas ces motorhomes? Parce que sur le Tour d'Italie, il y en avait un avec Richie Porte. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais il s'était mis sur le toit. Bon, il s'était mis sur le toit. Puis après, il avait crevé, il avait changé de roue avec un coureur d'une autre équipe, comme ça, gentiment, alors que là, c'était interdit. Les commissaires ont quand même sévi. Bon, là, ils sont arrivés sur le Tour avec trois. Ouais. C'est plus un. Et on nous fait croire que c'est les mécaniciens et les soigneurs qui couchent dedans.
C'est-à-dire que... avec sa puissance financière, l'équipe Sky est capable de faire taire tout le monde et d'imposer la présence de ces mobilhomes dont personne ne veut à la base.
Ben écoutez, moi j'attends parce que c'est quand même silence sur les ondes. Au niveau de l'organisation, on n'en parle pas. Au niveau des commissaires, on n'en parle pas, mais c'est vrai pour d'autres suspicions. On a parlé des vélos avec des assistances électriques, mm-hmm. C'est pareil. L'UCI n'en parle pas, les organisateurs n'en parlent pas, les commissaires n'en parlent pas non plus. C'est-à-dire que ces silences amènent à avoir des doutes. Et moi, je pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bus?
Et puis les silences, enfin, ça rappelle... Je suis désolée de dire ça, mais on le dit depuis le départ. Ça rappelle des années où il y a des équipes qui imposaient le silence à tout le monde, les équipes autour d'un coureur américain, par exemple.
Par exemple, oui, ce qui s'est avéré, puisque les enquêtes de police ont démontré que, et surtout les Américains, l'USADA entre autres.
Et donc on ne peut que faire la comparaison avec Armstrong aujourd'hui, aussi bien en voyant Froome courir.
Oui, publiquement.
Publiquement, voilà, c'est ça. Alors en tout cas, cette victoire écrasante de Chris Froome fait beaucoup réagir, notamment sur Twitter, hein, sur le Twitter d'RMC Sport. On vous demande, la victoire de Froome a-t-elle fait naître chez vous la suspicion? Et vous êtes à une très très large majorité à dire que oui, ça fait naître de la suspicion. Mais quand je vois les réponses également sur le hashtag RMC Live, il y en a aussi beaucoup qui disent oui, ça fait naître la suspicion, mais c'est pas d'aujourd'hui, on y pensait déjà en 2013.
Oui, on y pensait déjà en 2013 et je faisais partie, moi, de ceux qui restaient relativement modérés. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule, je sais pas, je vais voir.
Bon, en tout cas, Quintana est à un peu plus d'une minute aujourd'hui. On peut dire que c'est pas fini, hein. Pas complètement, rapidement.
Bon, Quintana est à 3,09, Van Garderen 2,52, mais il n'est pas dangereux. Valverde est à 4, et puis tous les autres, c'est 4, 5, 6.
Bon, d'accord, ok. Bon, c'est fini. Bon, d'accord. Merci
Je fais mon burn-out.
D'accord, Cyril Guimard. On va se reposer un peu, ça ira mieux demain, on aura peut-être une attaque, quoi que ce soit, on verra. Merci beaucoup, Cyril. On te retrouve quand même à partir de 19h avec Christophe Cessieux. Et je pense qu'on va encore continuer à parler de Chris Froome. Nous, dans un instant, on est en direct avec Philippe Saint-André, le sélectionneur du 15 de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h30, l'intégral Tour vous accompagne jusqu'à 21h sur RMC en ce jour de fête nationale. On va prendre le pouls de l'équipe nationale de rugby. La Coupe du Monde, c'est dans 66 jours.
RMC Rugby 2015.
Philippe Saint-André est notre invité en direct de Marcoussis. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
À vos côtés, Maxime Orlin, nos spécialistes rugby. Salut Maxime.
Bonsoir Virginie.
Alors Philippe Saint-André, pour le 14 juillet, est-ce que vous avez eu un discours spécifique pour motiver vos joueurs, pour décupler l'amour du maillot par exemple?
Pour être honnête, non. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour nous de travail. On continue sur le travail, le plaisir et la cohésion. Donc non, aujourd'hui c'était vraiment pour nous une grosse journée avant de partir demain à Tignes pour notre stage en altitude. Donc non, après on connaît l'attachement de nos joueurs au maillot, aux couleurs, à l'identité de notre pays. Je crois que j'avais pas besoin de rajouter quelque chose aujourd'hui.
Ça fait 8-9 jours maintenant que vous êtes à Marcoussis pour préparer cette Coupe du Monde. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas prévues qui arrivent? Racontez-nous ce début de stage.
Non, pour l'instant, ça se passe très bien. D'abord, l'attitude des joueurs, tant au niveau de leur état d'esprit que de l'investissement qu'ils mettent, du travail tous les jours. Et voilà, ils sont à la limite de leur maximum et ils progressent, ils s'encouragent. Il y a une bonne osmose entre les joueurs. En plus, on peut vraiment bien travailler tant au niveau physique qu'au niveau technique. Et donc pour l'instant, en plus on a eu des conditions climatiques depuis 9 jours fantastiques. Et donc pour l'instant c'est un début de stage très positif.
Philippe, dimanche, donc c'était le dernier jour de la première semaine, c'était jour de repos et les familles de joueurs sont venues à Marcoussis. C'était important pour vous de faire un moment comme celui-là?
Oui, c'est la première fois que ça arrive, mais pour moi c'est très important parce qu'on va passer, j'espère, 4 mois ensemble. Et donc c'était important au bout de 8 jours de casser la routine. Pour les joueurs, en plus on a beaucoup de jeunes papas, et bien, d'abord de voir leurs femmes, de voir leurs enfants. Donc et puis en plus de voir Marcoussis, on va dire, avec beaucoup plus d'humanisme, beaucoup plus de, on va dire, d'amour et de rire, parce qu'il y avait, voilà, il y avait beaucoup d'enfants, ça courait, ça rigolait. Et puis en plus c'est important pour moi aussi de présenter un petit peu le projet Coupe du Monde, parce que c'est dur pour les joueurs, mais ça peut être aussi difficile pour les familles. Et je crois que voilà, on leur a expliqué, et puis pour moi c'est important qu'elles soient à 200% derrière leur mari et derrière ce projet Coupe du Monde.
Est-ce que quand on prépare une Coupe du Monde comme ça, justement, l'humain, c'est au moins aussi important que le côté rugby?
Pour nous, oui. Pour nous, Français, je pense que l'humain, l'équipe, la solidarité doit être vraiment la base de notre aventure. Je crois que à chaque fois, dans une Coupe du Monde de rugby, d'abord, c'est une grande aventure humaine. Et donc pour nous, c'est vraiment important, et je suis attaché à ça, qui est d'abord un état d'esprit de travail, un état d'esprit d'osmose, et puis en plus on est un sport de combat collectif, donc c'est vraiment important qu'on soit un bloc.
Philippe, le deuxième bloc justement, ça va être Tignes. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va se passer à Tignes? Ça va être encore plus dur que cette première semaine à Marcoussis?
Ben, ça va être pour nous c'est vraiment important parce que les joueurs après au 26 juillet auront quelques jours de récupération, et vraiment c'est notre bloc très important au niveau physique. Donc après il y aura du physique, il y aura du rugby, il y aura aussi quelques balades en montagne. On veut aussi travailler à 3300 mètres d'altitude, et donc pour nous c'est vraiment un bloc qui est très important si on veut que nos joueurs soient dans une forme optimum pour le mois de septembre. Ce travail en altitude est très important.
Alors on sait que le côté physique, les nations du sud sont peut-être plus préparées à ça. Est-ce que en quelques mois, enfin 2 mois, on peut rattraper les nations du sud au niveau physique?
Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que C'est un secret de Polichinelle, de voilà les nations du sud et même européennes ont des intersaisons toutes les années et travaillent énormément physiquement. Nous on peut le voir, on peut l'entendre dans la bouche des joueurs. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils font une vraie pré-saison depuis 3 ans ou 4 ans. Parce que voilà, le top 14 est une compétition dure mais très longue et nos joueurs jouent pratiquement 11 mois sur 12. Donc je crois que c'est important pour nos joueurs de pouvoir voilà progresser, évoluer, mais c'est pas que de la préparation physique. On retravaille aussi sur des petits groupes de 12, la technique individuelle, le détail. Et sincèrement, je crois qu'on a des grands compétiteurs. On a une très belle jeune génération de joueurs qui arrive. Et je suis sûr qu'avec une belle préparation, on va être capable de rivaliser avec toutes les meilleures nations du monde.
Et sur une première semaine, est-ce qu'il y a déjà des stats, des chiffres qui permettent de dire qu'on a progressé et même au niveau du ressenti, voilà, est-ce qu'on sent des petites choses comme ça qui on se dit, voilà, on va faire une belle Coupe du Monde?
Ben déjà, sur l'état d'esprit, on s'aperçoit vraiment que voilà, ils sont en train de vraiment de devenir une équipe, parce qu'en plus ils en bavent ensemble et ça c'est important. Après deuxièmement, bien sûr qu'on a tout, on a fait des tests physiques, on a déjà répété une même séance 2 ou 3 fois et on peut s'apercevoir qu'entre la première séance et la troisième, il y a une évolution incroyable sur les temps, la réactivité, la vitesse. Donc on s'aperçoit que nos joueurs progresse, puis aussi même au niveau de la muscu, on a beaucoup beaucoup de séances de muscu du haut du corps et du bas du corps, donc on peut s'apercevoir qu'on a vraiment des joueurs qui évoluent, mais après il faut les autres pays travaillent aussi, donc pour nous il faut travailler énormément et être à la limite tous les jours pour pouvoir après arriver dans un deuxième bloc qui sera plus un aspect rugbystique et un aspect d'affûtage.
Philippe Saint-André, si vous deviez nous convaincre là aujourd'hui, pourquoi le 15 de France va gagner la Coupe du Monde?
Ben pourquoi elle va la gagner? Parce que d'abord on n'est pas favori et faut faire attention à une équipe de France qui est loin d'être favorite. Et puis deuxièmement, on sait que depuis 3 ans et demi, ça a été compliqué, mais pour nous c'était difficile, surtout les fins de première mi-temps et les fins de deuxième mi-temps, parce que on manquait un petit peu de ressources. Et là, je peux vous assurer qu'avec l'investissement des joueurs, le travail qu'ils font quotidiennement, on sera très pénible à jouer durant cette Coupe du Monde.
Et Philippe, là, tout va bien. Vraiment, c'est un début de préparation quasi parfait. Il n'y a pas eu de blessés, etc. Mais il y a quand même il va falloir passer de 36 joueurs à 31 joueurs. Et est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez déjà et c'est déjà dans votre esprit? Et voilà, le coup près est dans un peu plus d'un mois, mais il faut déjà y penser.
Bien sûr que je suis obligé d'y penser, mais bon, pour moi, surtout, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, l'aventure commence à 36 et ça sera l'investissement et la qualité de ce que mettent les joueurs dans le groupe qui aura réussite. Après, automatiquement, il faudra faire des choix, mais ça, c'est mon métier, c'est mon job. Et puis après, vous savez, la préparation est longue, on a encore 3 matchs amicaux, donc on n'est pas à l'abri de blessures, mais bon, je suis pas le seul sélectionneur. Les Anglais sont 45 actuellement, les Néo-Zélandais sont très nombreux, je crois que toutes les nations maintenant se préparent à entre 50 joueurs et 36. Et puis en plus, on peut pas prendre le risque maintenant dans une préparation. Si jamais on a un joueur clé qui se blesse au dernier moment, c'est important que un autre joueur connaisse les systèmes, l'organisation et puis surtout sur l'état d'esprit qu'il ait travaillé avec les joueurs depuis le début. Donc bien sûr que ça sera des choix difficiles à faire, mais bon, je suis là pour les faire. Mais surtout, j'ai besoin surtout que les joueurs se posent pas de questions, qui donnent le maximum. Et puis après, voilà, après le deuxième match contre les Anglais, on donnera la liste des 31 joueurs.
Philippe Saint-André, juste une dernière question. Vous, en tant que sélectionneur, donc leader de ce 15 de France, est-ce que vous avez un petit texte ou des mots-clés, des choses que vous répétez à vos joueurs avant cette Coupe du Monde?
Ouais, bien sûr qu'on a, on a des mots-clés, on a des thèmes, on a des thèmes qui sont importants pour nous. Après, bon, sur la première semaine, c'était plaisir, travail et osmose. Et après, bien sûr qu'on a d'autres thèmes. sur l'aspect sportif, sur les règles de vie et puis surtout sur où on veut aller et comment on veut aller. Après, vous comprenez que j'ai ce message-là, je préfère le garder à l'intérieur du groupe, mais bien sûr que c'est important. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que les joueurs ne subissent pas cette préparation, mais qu'ils soient complètement des acteurs de leur préparation. On dit souvent que si on travaille beaucoup, la chance vient de notre côté. Donc on va tout faire pour que la chance soit de notre côté durant cette Coupe du Monde.
Merci beaucoup Philippe Saint-André d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC. À très bientôt sur notre antenne.
Merci, bonne soirée.
Et on soutient le 15 de France pour la Coupe du Monde de rugby. Bien sûr, on soutient aussi la candidature de Paris pour l'organisation des JO de 2024. Et Paris met les petits plats dans les grands en ce 14 juillet. On va participer à la fête dans un instant avec Tony Parker. À tout de suite.
RMC, intégral tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h44, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC et cet intégral tour prend des couleurs olympiques.
RMC, France Olympique.
Paris est officiellement candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 depuis le 23 juin exactement. Les sportifs ont été mis en avant ce jour-là. Là aujourd'hui, c'est le deuxième étage de la fusée parisienne. Ce soir notamment, 14 juillet, c'est jour de fête nationale. C'est donc une union nationale derrière la candidature avec François Hollande, le président de la République, qui reçoit en ce moment des sportifs investis derrière la candidature parisienne à l'Élysée. Ensuite, ils auront tous ensemble voir le feu d'artifice au Trocadéro. On verra si jamais le feu d'artifice a une petite teinte olympique également, avec pourquoi pas des anneaux ce soir dans le ciel parisien. Louis Amar est en direct de l'Élysée. Salut Louis.
Salut Virginie, bonsoir à tous.
Alors ils sont une centaine les sportifs, ils sont à l'Élysée là en ce moment, tu les as vus?
Exactement, ils sont arrivés au compte-gouttes, chacun par ses propres moyens, un petit peu avant 18h pour une réception avec le président de la République. On a vu arriver Bernard Lapasset, qui est un des hommes qui pilote cette candidature. Il est à la tête de l'association Ambition Olympique. Également présent, Tony Estanguet, triple champion olympique et l'un des deux membres français du CIO. Et puis il y a des athlètes en activité, des anciens champions olympiques. On a vu par exemple Marie-Josée Pérec, championne olympique, Jimmy Vico, le récent champion de France du 100 mètres, récent recordman d'Europe également, l'ancien footballeur Sabri Lamouchi, l'ancienne vainqueur de Wimbledon Marion Bartoli. Bref, du beau monde à l'Élysée en ce moment.
Et donc, il y a une partie qui se passe à l'Élysée. Ensuite, tout ce beau monde va se déplacer dans Paris pour rejoindre le Trocadéro.
Exactement, on a assisté tout à l'heure devant l'Elysée à un balai d'autobus pour acheminer tous ces sportifs vers le Trocadéro. Ça va se dérouler en deux temps. Il va y avoir d'abord une nouvelle réception un petit peu plus feutrée, sans responsable politique a priori, dans un hôtel proche de la place du Trocadéro, un hôtel qui s'appelle l'hôtel Shangri. Et puis aux alentours de 22h, rebelote, tout le monde repart en navette direction la place du Trocadéro, cette fois-ci au Palais de Chaillot, pour une dernière réception, cette fois-ci beaucoup plus officielle. Les sportifs y retrouveront quasiment l'ensemble du gouvernement, une très bonne partie en tout cas. Et puis, on retrouvera également les élus de la ville de Paris, l'ensemble des conseillers, le président de la République lui-même pour assister au fameux feu d'artifice du 14 juillet.
Alors Louis, justement, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que le feu d'artifice, il va avoir une connotation olympique? On va voir quelque chose dans le ciel parisien qui nous dit « ça y est, on est candidat ?»
Absolument, c'est ce qu'on nous répète en tout cas, à la fois du côté de la mairie de Paris et du côté de l'Elysée. On nous dit scrutez bien le ciel, gardez les yeux ouverts, vous verrez des symboles de l'olympisme. Oui, Paris sera tout à l'heure illuminé du projet de sa candidature pour les JO de 2024.
Donc les sportifs et les politiques tous ensemble pour bien montrer qu'il y a une union nationale derrière cette candidature parisienne. Est-ce que vous avez entendu des gens dire bon ben voilà, on ne recommence pas les mêmes erreurs que ce qu'on a fait pour les deux défaites précédentes?
Ah oui, c'est même la phrase qu'on entend le plus, hein, Virginie, depuis le début du lancement de cette candidature, depuis le 23 juin dernier, le jour où elle a été officialisée. C'est on a tiré les leçons des échecs précédents. Il y en a eu beaucoup. 92, 2008, 2012. On a tiré les leçons de ces échecs. On ne répétera pas les mêmes erreurs. Et c'est pour cela aussi que, à la fois, le président de la République et la direction de la ville de Paris veulent laisser la place de roi au mouvement sportif pour porter cette candidature. Parce qu'en 2012, ou en tout cas pour les Jeux de 2012, on a beaucoup répété que les responsables politiques s'étaient un petit peu trop mis en avant.
Merci beaucoup, Louis Amar, en direct de l'Elysée. On va te retrouver dans la soirée, bien sûr, pour nous faire vivre ce feu d'artifice, notamment aux couleurs olympiques. À tout à l'heure. Alors, qui dit Jeux Olympiques dit Dream Team Olympique. Clarisse Agbenonou rejoint la RMC jusqu'au JO de Rio. Ça, c'est dans un an. Elle est championne du monde de judo. Bonsoir, Clarisse.
Bonsoir.
Alors, bienvenue au sein de la Dream Team RMC Sport. Je vais rappeler le contexte en quelques mots. Il y a 450 sportifs qui vont défendre les couleurs de la France au JO de Rio dans un an. Le ministère des Sports a souhaité développer des partenariats entre les entreprises et les sportifs de haut niveau. Et donc, RMC va accompagner Clarisse, mais aussi le décathlonien Kevin Mayer et le nageur Yannick Agnel jusqu'à Rio. Le but, c'est qu'ils nous fassent découvrir leur quotidien de sportif. On va donc commencer ce soir. Clarisse, d'abord, on est le 14 juillet, il y a de nombreux sportifs français qui sont réunis autour du président de la République pour soutenir la candidature de Paris à l'organisation des JO de 2024. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, pour soutenir Paris ?
Bah, je pense que ça serait que Paris va faire une bonne organisation, donc c'est peut-être bien de laisser la place à Paris. Et voilà, en plus pour nous, les familles, pour les familles de ceux qui vont être présents en tant qu'athlètes, bah, pour se déplacer plus facilement, beaucoup plus facile et avoir encore plus d'encouragement. Donc je pense que dans la tête, les médailles vont tomber.
Est-ce que toi, tu arrives à te projeter jusqu'en 2024 ?
Voilà, non. Je pense que déjà, je vais me projeter pour 2016, ce sera déjà pas mal. Et après, le reste, on verra.
Alors, on va rappeler que tu étais à Bakou pour les championnats d'Europe de judo, médaillé de bronze en moins de 63 kilos. Je crois que tu attendais mieux en tant que championne du monde. Comment tu as digéré cette compétition, là, maintenant ?
De toute façon, pour moi, ce n'est que des entraînements et des entraînements. Je me suis blessée, donc j'avais que 2 semaines d'entraînement. 2 semaines avant, je devais pas faire des Jeux européens, donc les Europes pour nous à Bakou. Et je me suis lancée. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ça fera des entraînements. Il faut que je fasse une compétition avant le championnat du monde pour me tester. Et j'ai fait pas mal de choses bien. Je suis quand même fière de moi. Après, voilà, j'ai perdu bêtement en demi-finale, mais bon, je me suis rattrapée aux équipes. Je pars confiante.
Et donc là, c'est entraînement, entraînement, entraînement. Tu n'es pas partie du tout en vacances juste après Bakou ?
Non, après on est parti directement en stage en Espagne pour une semaine. C'était très, très difficile parce qu'il faisait très, très chaud. Et vu qu'on ne s'entraîne pas comme les lutteurs en maillot de lutte, ben, on a des gros kimonos bien lourds. Donc c'est un peu dur, mais bon. C'était un bon stage et ça s'est bien passé.
J'imagine. Donc l'été, c'est un enfer, en gros, l'entraînement.
Exactement. L'été, c'est un enfer, faut le dire.
Donc maintenant, on est à un an des JO de Rio. Est-ce que déjà tout ton esprit est tourné vers Rio ?
Non, pas du tout. Moi, je vais toujours de compétition en compétition. Donc je passe étape par étape et là, je suis concentrée et je m'entraîne pour les championnats du monde. Et je veux garder mon titre. Donc pour l'instant, j'ai que ça en tête.
Et quand on est comme ça dans une année pré-olympique, il y a des choses qui changent, des habitudes, ou est-ce que, comme tu le dis, comme tu penses d'abord au championnat du monde, c'est vraiment ce qu'il pensera 3 mois avant ?
Après, moi, je sais pas, parce que pour moi, ça va être mes premiers Jeux olympiques. Donc moi, je pense que c'est pas approprié de changer de méthode. Si on a une méthode qui marche, autant la garder. Parce que on va pas pour une compétition, normalement tout se ressemble, on prend les mêmes filles, on se connaît toutes, donc ça ne sert à rien de changer si on a quelque chose qui marche. Et je pense que ça fait un peu court quand même de changer juste un an avant une grosse échéance.
Est-ce que tu peux juste nous dire une journée type d'entraînement pour toi, c'est quoi, pour qu'on se rende bien compte ? Tu te lèves tôt, tu t'entraînes le matin, comment ça se passe ?
Alors, une journée type, je vais prendre par exemple le lundi matin, j'ai un petit circuit donc pour me remettre en forme, en sachant que je me suis remis en forme quand même le dimanche, pour pas être trop à la masse le lundi. Pour moi, c'est mieux. Donc, je fais un petit circuit ou un fartlek. Donc, soit je cours pendant 40 minutes sur un tapis avec des montées ou sinon de la vitesse. Ou sinon, je fais un petit circuit pour remettre un peu mes muscles en forme, que ce soit mes bras ou mes jambes. Et le soir, on a un entraînement fort, donc des judo, des combats, de la technique.
Ouais, tu vas nous faire découvrir ton quotidien jusqu'au jeu de Rio, donc dans un an, Clarisse Agbenyonou. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC. Donc on l'a dit, on va te retrouver très très régulièrement jusqu'à Rio.
Je vous en prie, en tout cas à bientôt.
Il est 18h53 sur RMC et Tony Parker est en direct avec nous. Bonsoir Tony.
Bonsoir Virginie, ça va ?
Très bien, alors L'Elysée, là, en ce moment où il y a plein de sportifs, toi, tu peux pas y être parce que t'as aussi ton Tony Parker Camp, hein, tu peux pas être partout à la fois. Mais j'imagine que t'as quand même un petit message de soutien pour Paris 2024.
Oui, bien sûr. Hein. Bon, malheureusement, comme vous venez de le dire, je pouvais pas être là parce que je suis avec les enfants. Là, j'ai plus de 300 gamins avec moi, mon camp. Donc c'était.
Ouais, faut quand même les garder. On peut pas les laisser tout seuls.
C'était un peu dur de les quitter, mais bien sûr, je soutiens la candidature Paris 2024. Je pense que c'est très très important. Ce serait génial pour la France, génial pour Paris. Et donc, j'espère vraiment que ça va passer cette fois.
Pourquoi, en fait, pourquoi le CIO doit choisir Paris si tu te transformais là en candidat? C'est toi qui portes cette candidature.
Bon, c'est parce que je pense que c'est une des plus belles villes du monde. Et donc, je pense que ce serait incroyable d'avoir les JO là-bas. Et en plus, ça permettrait de développer plein d'infrastructures pour la France et pour Paris. Donc, pour toutes ces choses-là, je pense que ce serait important.
Tony Parker est en direct dans l'intégral Tour, membre de la Dream Team RMC Sport, la Dream Team Olympique. Donc, on l'a dit, tu es à Villeurbanne hein, pour ton Tony Parker Camp. Avec les enfants, là, vous parlez de l'euro, vous parlez de la NBA, vous parlez de tout ça.
Là. Ah, que de l'euro. Hein. Depuis que tu es rentré en France, on ne parle que de ça. Il faut gagner, Tony. Il faut gagner. Faut ramener la médaille d'or. Donc, c'est vrai qu'on ne parle que de ça, mais ça va être un grand événement. C'est génial pour le basket. On est sur une vague ultra positive en ce moment et j'espère qu'on pourra confirmer notre titre de 2013.
Voilà, garder ce titre tout simplement. Donc c'est ce que on peut pas dire non à des enfants en même temps, Tony. T'es obligé
non,
de tenir promesse.
Donc c'est pour ça que je fais mon maximum. Je m'entraîne tous les jours là pour être prêt. On commence le 22 juillet là avec l'équipe de France. Donc j'ai hâte de retrouver mes camarades et commencer à se préparer pour être prêt le jour J.
Merci beaucoup Tony Parker d'avoir passé quelques petits instants avec nous sur RMC. On rappelle
merci
que c'est
Virginie.
Un peu ta maison,
hein,
puisque tous les lundis tu es là pour le Tony Parker Show pendant la saison NBA. À très bientôt sur l'antenne d'RMC, Tony Parker.
Au revoir, merci.
Et on va aller tout de suite à Moscou pour une autre actu olympique et une médaille qui arrive pour la France déjà, Rodolphe Massé au championnat du monde d'escrime. Rodolphe Massé.
Oui, Rodolphe tout Massé. À fait. Je m'attendais à un petit jingle qui allait faire bilibili France Olympique, RMC France
mais
Olympique.
Mais parce qu'on l'a déjà passé avant, parce qu'on est dedans,
pas
on est déjà dedans.
Eh bien, on est dedans
on soutient
aussi.
Paris 2024, nous, déjà depuis un moment, là.
Et on est dedans dans cette finale du sabre féminin individuel avec la Française Cécilia Berder opposée à la Russe qui évolue donc à domicile, Velikaya, et ça se ressent au niveau de l'arbitrage. Il y a une petite prime toujours au tireur qui évolue à domicile. 6 touches à 3 en faveur de Velikaya. C'est la numéro 2 mondiale. Elle a 30 ans. C'est l'une des deux références de cette catégorie du sabre féminin. L'autre, c'était l'Ukrainienne Karlan. Cécilia Berder n'en a fait qu'une bouchée en 8e de finale. Et bien là, contre la Russe, Velikaya, c'est compliqué. La Russe qui a été sacrée pour la 3e fois de sa carrière, championne d'Europe individuelle en juin dernier, qui a déjà été championne du monde en 2011, qui est vice-championne olympique en titre. Je vais arrêter là pour son palmarès. Et bien pour le moment, c'est la Russe qui fait la course en tête dans cette finale, puisqu'elle mène 7 touches à 4 désormais. Et surtout, et bien elle arrive à bloquer l'escrime avec panache de Cécilia Berder, qui aime bien jouer avec les distances. Et bien là, pour le moment, la Russe Velikaya ne lui laisse pas le temps d'installer son escrime à la Française. Cécilia Berder, qui pour le moment a fait la journée parfaite et qui là cherche à toucher son adversaire, ça va compter pour la Française. Il y a eu un petit geste retenu de la part de Velikaya, du coup la touche compte pour Cécilia Berder. La Française a donc 2 touches de retard. La Finistérienne d'origine orléanaise d'adoption, en tout cas en club, elle est en train de faire le boulot là, Cécilia, puisqu'elle revient à une touche. 7 touches à 6 pour la Russe Velikaya. Si la Russe
On va continuer à suivre évidemment cette finale du sabre féminin au championnat du monde d'escrime avec Rodolphe Massé. Ce sera avec Christophe Cessieux qui a toujours un sabre sur lui partout où il va, et oui, notamment dans les Pyrénées. C'est plus prudent en ce moment, Christophe.
Il y en a un qui peut avoir besoin d'un sabre ce soir, c'est Chris Froome qui peut sabrer le champagne.
Ah, par
évidemment,
exemple.
Évidemment, après cette magnifique victoire d'étape aujourd'hui au sommet de la Pierre Saint-Martin, Chris Froome qui a écrasé le tour. On va évidemment y revenir avec toute la Dream Team. Ce sera juste après les infos de 19h. Y a-t-il encore des choses à aller gagner dans ce Tour de France? Comment expliquer les sous-performances de nos Français et des autres pseudo-fantastiques? On parlera de tout ça dans quelques instants. Et puis évidemment, la suspicion qui naît après l'exploit de Chris Froome. On en parlera avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Ce sera juste après les infos.
RMC Intégral Tour.